Bonjour à tous. Si je vous demande de dessiner un arbre, vous allez dessiner le tronc, les branches, le feuillage et les racines. Et si aujourd'hui nous parlions de racines ? Pour cela, je reçois Katia Geffard qui va vous en dire un peu plus. Bonjour Katia.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Katia, tu es une spécialiste des arbres et des racines, mais dans des forêts un peu particulières, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. En fait, je ne suis pas sylvothérapeute, comme on pourrait le penser, mais je suis psychogénéalogiste.
Peux-tu nous expliquer ce qu'est la psychogénéalogie ?
Oui, alors la psychogénéalogie est une méthode thérapeutique qui consiste à mettre en lumière, en sens et en lien, des données généalogiques et leurs répercussions, notamment psychologiques, sur la descendance.
Et alors, concrètement, comment ça se passe une séance de psychogénéalogie ?
Eh bien, dans un premier temps, en fait, je vais faire parler la personne qui vient me rencontrer. Je vais lui demander de me raconter son histoire de vie, quels sont ses blocages, surtout ceux qui sont persistants, puisque plus ils sont persistants et moins ils nous appartiennent. Voilà. Donc, je commence par une anamnèse.
D'accord. Et ensuite, comment tu poursuis ?
Et ensuite, eh bien, je leur demande de réaliser leur arbre généalogique, en y inscrivant des éléments d'information, diverses et variées, mais surtout les quatre dates signifiantes, dont la date de conception, la date de naissance, la date de mariage et la date de décès pour les personnes qui sont concernées.
D'accord, ça, ce sont vraiment des dates très importantes.
Oui, la psychogénéalogie est partie du principe qu'elles étaient importantes parce qu'elles permettaient de... Elles généraient en tout cas des changements, et notamment de statut. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a... Quand une personne a un enfant, elle passe du statut d'enfant au statut de parent. Et c'est pour ça que ces dates, en fin de compte, sont dites signifiantes.
Et toi, Katia, toi aussi, tu as changé de statut hein, il y a un peu plus d'un an, puisque tu es devenue psychogénéalogiste, mais tu ne l'as pas toujours été. Et moi, j'aimerais connaître un peu plus Katia.
Oui, alors effectivement, avant d'être psychogénéalogiste, j'étais assistante sociale. J'exerçais dans un établissement et un service donc médico-sociaux qui accueillait des jeunes en situation de handicap mental qui présentaient une déficience intellectuelle. Et je me suis rendu compte assez rapidement que certains d'entre eux ne s'autorisaient pas à lire pour ne pas dépasser intellectuellement leurs parents qui étaient eux-mêmes déficients. Évidemment, tout ça, c'était inconscient. J'ai constaté aussi, comme le handicap peut avoir une origine génétique, j'ai constaté aussi qu'il y avait une fidélité très prégnante au sein d'une famille. Et donc, ça allait même jusqu'à parfois, ça va au-delà de la ressemblance physique, au-delà de la manière de penser, d'agir, mais je pense particulièrement en fait à une famille, le rapport à l'argent était identique chez les deux sœurs que j'ai pu rencontrer. Et à l'inverse, eh bien, il peut arriver qu'une personne s'extrait de ce schéma familial. Et donc, je me suis en fait interrogée pourquoi cette personne
ne suivait pas le schéma
familial. C'est vrai que... Et donc, l'interrogation, c'était... Mais qu'avait vécu cette personne pour être si différente ? Donc, toutes ces questions, en fin de compte, ont suscité, évidemment, des recherches. Et j'en suis arrivée à la psychogénéalogie, pour laquelle j'ai choisi de me former.
Oui, mais alors, à la base, quand même, bon, t'étais assistante sociale, tu vas dans la psychogénéalogie. En fait, tu vas aller aider encore plus profondément les gens. Et qu'est-ce qui t'attire là-dedans ? Enfin...
Alors, c'est vrai que ce sont deux métiers de la relation d'aide, enfin, je dis de la relation d'aide. Là, avec la psychogénéalogie, je poursuis, en fait, ce travail d'accompagnement auprès des familles. C'est ce qui m'intéresse. Et puis, surtout... Je me souviens que quand j'étais étudiante pour devenir en fait assistante sociale, j'ai effectué un stage en troisième année au sein du conseil départemental et je devais me présenter. Et très timidement, j'ai exprimé le fait que j'aimais l'autre, mais vraiment extrêmement timidement. Et si c'était en fait aujourd'hui ou si c'était à refaire, eh bien je revendiquerais le fait d'aimer l'autre parce que je pense que c'est la base de tout accompagnement en fait.
Oui, et alors avant tu n'aurais pas osé le faire, maintenant tu oses. Je pense, hein, tu me diras si je me trompe, que la psychogénéalogie t'a aidé à être toi-même. Et c'est vrai que lorsque je t'ai rencontré la première fois, hein, c'était lors d'une réunion de femmes entrepreneurs, j'ai été très attirée par toi parce que quelque chose m'a frappée, c'est ton authenticité, vraiment. Et est-ce que la psychogénéalogie a joué sur ton authenticité, sur le fait que tu oses être qui tu es ?
Oui, alors sûrement au-delà de l'authenticité, je parlerai surtout de libre arbitre, hein, parce que c'est vrai que ça permet finalement de mieux savoir d'où l'on vient, qui on est, c'est mieux comprendre et de ce fait, c'est mieux accepter et donc mieux transmettre à sa descendance. Voilà ce que je dirais en fin de compte donc, par rapport à la psychogénéalogie.
Alors, mieux transmettre à sa descendance, oui, parce qu'on a tendance à transmettre quand même certaines choses qui peuvent être très handicapantes à notre descendance. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns de ces handicaps que l'on peut transmettre ?
Eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui se transmettent de manière inconsciente. C'est vrai que je pourrais avoir beaucoup d'exemples à citer. Je vais peut-être prendre celui d'une phobie, par exemple. On pourrait se dire, mais d'où provient cette phobie ? Bien souvent, elle est révélatrice, pardon, d'une mémoire transgénérationnelle, celle peut-être d'un secret de famille. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître la thématique de cette phobie et la symbolique, et d'aller chercher dans l'arbre l'origine potentielle de cette phobie.
Cette phobie, elle peut provenir, j'imagine, d'un événement qui s'est passé dans la famille. Est-ce qu'elle peut provenir aussi de caractéristiques particulières des ascendants ?
Oui, alors en fait, il y a trois principes de base en psychogénéalogie. On parle de projection, toutes celles de nos parents.
C'est-à-dire ?
Alors, bien des projections qu'ils peuvent avoir avant même de nous concevoir, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'ils ont déterminé d'avoir en fait ensemble, le sexe en particulier, etc., etc.
Oui, c'est vrai que certains préfèrent avoir une fille, c'est un garçon qui arrive, enfin.
C'est ça, ou bien un garçon pour reprendre l'exploitation donc agricole, parce qu'on estime qu'un garçon est plus à même d'eux, ou bien simplement dans le cadre d'un héritage, il est plus facile d'avoir un enfant en fait unique, pour être sûr que l'héritage se transmette, qu'il y ait bien transmission en tout cas de biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Donc en dehors de ces projections, il y a aussi les identifications, puisque dès la naissance, on cherche les ressemblances en fait, de l'enfant juste-né avec les parents. Et ça, c'est surtout pour rassurer en fait, la famille et les personnes extérieures. Et puis, il y a enfin aussi les répétitions qui sont extrêmement importantes en psychogénéalogie, puisque c'est celles qui sont révélatrices soit de secrets ou bien de mémoires transgénérationnelles. Donc ça peut être la répétition de prénoms, la répétition de dates, etc., etc.
Et tu peux nous citer un exemple de projection, un exemple d'identification et un exemple de répétition pour que les auditeurs aient une idée un peu plus précise ?
Bien souvent, en fait, quand on parle de projection, il s'agit surtout pour un parent, à travers cet enfant, de réaliser ce qu'il n'a pas pu faire, par exemple.
Ah oui, par exemple, quelqu'un qui voulait apprendre le piano ou devenir pianiste même.
Tout à fait, ça peut être ce genre de projection.
Il va pousser son enfant à faire du piano.
Oui, c'est ça. Tout ce qu'il n'a pas réussi à faire, la personne qui a été frustrée et empêchée, par exemple, de poursuivre ses études, eh bien, va tout faire pour que son enfant ait la possibilité de le faire, pas seulement dans l'intérêt de l'enfant, voilà, mais surtout aussi pour pouvoir rattraper ce qui n'a pu être fait à une génération donnée.
Oui, satisfaire ce besoin, quoi.
Satisfaire ce besoin, voilà. Donc ça, il s'agit de projection. Donc quand un enfant naît, par exemple, pour ce qui est des identifications, eh bien, on va projeter, c'est une forme de projection en fait aussi, on va projeter sur lui les ressemblances des autres membres de la famille. C'est une forme, comment je vais dire, une forme de rassurance, puisqu'on on veut vraiment, à travers ce jeu de ressemblance, manifester, dire que notre enfant est bien le nôtre, puisque en fait la filiation est le premier secret finalement en psychogénéalogie. Donc on va tout faire pour se rassurer et rassurer les autres sur cette question de filiation. Cet enfant est bien le nôtre.
Oui, comme les phrases que l'on dit par exemple, ah il a les yeux de son père, oh c'est bien hein, Martin, etc., etc.
Voilà,
c'est ce genre de phrases.
Tout à fait, c'est ça. Et après, la grande question est de savoir ce que l'on en fait, mais c'est un autre sujet.
D'où la psychogénéalogie justement qui va aider une personne peut-être à se trouver soi-même et se débarrasser un peu de toutes ces projections et ces identifications.
Oui, c'est pas toujours facile parce que inconsciemment on peut avoir la peur d'être rejeté par le clan. On peut. Il s'agit aussi de la famille, est aussi une forme de sécurité. Donc s'en extraire peut sembler aussi périlleux, dangereux, douloureux. Et donc ce n'est pas si facile que ça de se détacher de ces loyautés familiales. Et d'autant plus qu'il faut en avoir conscience pour pouvoir s'en détacher. C'est la première chose.
En plus, oui, en plus. Et alors, les répétitions, as-tu un exemple de répétition ?
Alors, je disais, j'ai en fait en tête la situation, on va dire, d'Aline. Ce n'est pas son propre prénom, hein, parce qu'il faut anonymiser les prénoms, les situations. Donc, j'ai en tête la situation d'Aline, qui ne se sentait pas bien, qui était plutôt dépressive, qui n'allait pas bien non plus, en fait, au travail. Et elle a consulté une psychogénéalogiste et puis elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait trouver. Elle s'entendait très, très bien, en fait, avec sa mère. Et il s'est avéré qu'il y avait une répétition de prénoms. Donc, elle s'appelait Aline, sa mère s'appelait Marie-Aline, sa grand-mère s'appelait Aline et portait comme deuxième prénom Marie. Et il y avait des répétitions, en fait, de dates. Donc, l'idée, c'était vraiment de comprendre quel était le lien entre un événement potentiel survenu dans l'arbre et puis ce mal-être qui était présent depuis quelques années. Et ce n'est pas, en fait, au bout de la première séance qu'Aline a découvert ce qui, finalement, quel était ce lien. C'est quand elle a discuté avec sa mère de cette séance qu'elle avait vécue, eh bien, sa mère lui a révélé que sa grand-mère avait été abandonnée dans un couffin devant une église. Et donc, les phrases qu'avait pu prononcer, en fait, Aline lors de l'anamnèse, eh bien, ce sont les phrases que sa grand-mère, en fait, a pu ressentir quand on l'a abandonnée sur les marches de l'église. Et donc, eh bien, à ce moment-là, il est important de rendre hommage à la personne qui, finalement, puisque c'est ça, c'est de rendre hommage à ce qui s'est passé dans l'arbre. Voilà. Pour pas qu'on oublie, pour que l'on répare, pour que. C'est un peu ça, l'intérêt de la psychogénéalogie.
D'accord, mais alors là, il fallait rendre hommage à l'abandon ?
Il fallait rendre hommage, donc on peut rendre hommage effectivement à un concept, mais là, l'idée c'était surtout en fait à cette grand-mère qui avait été abandonnée et pourquoi pas à sa mère. Donc à ce moment-là, on propose des actes psychomagiques ou des thérapies brèves pour vraiment rendre hommage à cette grand-mère. Parce que si en tout cas, l'événement qui a été vécu, mais ce n'est pas seulement l'événement, c'est surtout l'émotion qui a été associée. Si cette émotion s'est transmise, en fin de compte, de génération en génération, comme un fantôme dans un placard, j'ai l'habitude de dire, eh bien, c'est parce que ça n'avait pas été élaboré, ça n'a pas été ni échangé, ni. C'est toujours resté, en fin de compte, comme un deuil qui n'est pas terminé. Eh bien, cette émotion, elle n'a pas été dépassée. Et donc, tant qu'elle ne sera pas dépassée, eh bien, elle persistera dans l'arbre.
Oui, elle persistera, oui. Mmh. Oui. Alors, en fait, là, c'est un peu rendre hommage à la grand-mère pour lui donner toute son importance à cette grand-mère.
C'est ça.
Et ne pas répéter, donc, ce sentiment d'abandon.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et puis, une manière, finalement, de permettre de comprendre, en fait, aussi pourquoi. L'arrière-grand-mère d'Aline avait abandonné sa fille, puisque on peut rester sur des regrets, sur des griefs,
oui, sur un mauvais jugement.
Sur un mauvais jugement. Oui, oui. Et bon, mais voilà, quand on comprend finalement pourquoi on agit de telle manière, eh bien, c'est plus facile de l'accepter. Et donc, il n'y a plus de raison en fait ensuite qu'il se transmette.
Oui, c'est vrai que faire appel à toi permet d'avoir un autre point de vue sur ces situations douloureuses. Et parfois, oui, on donne une interprétation et toi, tu peux donner une autre interprétation.
Oui, je vais aller surtout questionner donc la personne pour voir ce qui fait résonance en fait en elle. Et puis, moi, je suis là surtout pour prendre de la distance et de la hauteur par rapport à la situation, puisque moi, je n'ai pas l'affect qui entre en compte, contrairement en fait à la personne qui vient me voir. Et cette mise à distance me permet en tout cas d'interpréter de manière plutôt factuelle et justement de poser donc les questions tout aussi neutres pour que déjà qu'elles soient différentes et que ça puisse donc être assez évocateur pour la personne concernée.
Merci Katia.
Merci Catherine.
Donc, la psychogénéalogie, en fait, on analyse un peu les différents événements de la famille, hein, qui s'est passé dans la famille, et selon les émotions qu'ont pu ressentir les protagonistes, en quelque sorte, hein, ils peuvent, si la blessure, c'est souvent des blessures, hein, où le blocage n'est pas n'est pas exprimé, finalement, ça peut se transmettre de génération en génération. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des blocages qui viennent finalement d'antécédents familiaux.
Oui, oui, tout à fait. Et ces blocages-là, c'est d'autant plus s'ils sont persistants qu'ils ne nous appartiennent pas, en fait.
Voilà. Et donc, eh bien, aller te voir permet de s'en libérer. Et de devenir soi-même, d'être authentique. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je t'ai connue, c'est ton authenticité. Moi, je pense que la psychogénéalogie t'a aidé. Et si vous avez envie de découvrir ou de trouver votre libre arbitre, je vous invite profondément à aller voir Katia. Alors Katia, tu as un site ?
Oui, tout à fait. Donc il vous suffit de pianoter Katia Geffar, K-A-T-I-A-G-E-2-F, comme François, ARD.fr. Voilà, et vous aurez accès en fait à mon site internet.
Oui, et tu es aussi sur les réseaux sociaux.
Oui, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Et donc sur ces réseaux-là et sur mon site surtout, vous trouverez l'agenda des différents ateliers que je propose, qu'ils soient, ils peuvent être thématiques, à thème, ou bien encore plus ou moins ludiques et créatifs. Voilà, donc n'hésitez pas.
Oui, parce qu'en plus de séances de psychogénéalogie, tu proposes des ateliers sur un thème particulier.
Oui, parce qu'il est parfois plus facile, en tout cas pour une première approche, de venir en groupe, parce qu'on n'est pas obligé de se livrer. On peut dire ce que l'on veut, apprendre et prendre ce que l'on souhaite en fait aussi. Donc ça peut être un bon moyen pour une première approche, si en tout cas de chercher à comprendre ce qui s'est passé dans votre arbre vous semble encore inaccessible ou difficile.
Merci Katia, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle Exquise Esquisse.